Vous écoutez Erdiwa sur la fréquence 107.5 ou sur www.rdwa.fr. Plantu et compagnie. Une émission qui permet de découvrir ou redécouvrir chaque semaine une plante de nos contrées que l'on peut cueillir, manger ou transformer. Bonne écoute.
Les sanglots longs des violons de l'automne bercent mon cœur d'une langueur monotone.
Aujourd'hui, nous étudions
le cognacier.
Le cognacier.
Le cognacier.
Le cognacier plus foufou.
Le cognacier.
Le cognacier.
Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie. Je ne perdais pas au change, pardi.
Un coin d'amour. Un coin de repos. Un coin tranquille.
Un coin de verdure.
Un coin de paradis.
Un coin à manger dans le coin de ta maison.
Un coin de mur.
Un coin de folie.
Un coin du jardin. Cydonia oblonga, de la famille des rosacées. Le nom botanique de Cydonia vient d'une ancienne ville grecque, Sidon, qui se nomme aujourd'hui Lacanée, et où les Grecs cultivaient une belle variété de coings. C'est un botaniste d'origine écossaise, Philip Miller, qui a créé en 1768 la catégorie Cydonia, qui était auparavant assimilée au genre Pyrus, le genre des poiriers. Mais la Grèce n'est pas le territoire spontané du cognacier, qui est originaire du littoral caucasien et iranien de la mer Caspienne. Lors de mes recherches, j'ai pu lire « L'habitat spontané du cognacier se trouve dans le maquis riverain de la Caspienne où le cognacier est fréquemment mélangé avec le grenadier sauvage. Voici donc son lieu phylogénétique. » Une petite description de la plante. Le cognacier est un petit arbre mesurant 5 à 8 mètres de hauteur et 4 à 6 mètres de large. Les tiges, les parties de la plante qui comportent des feuilles et se terminent par des bourgeons, sont tortueuses. Elles vont dans tous les sens et se divisent en rameaux diffus. Les rameaux sont tomenteux lorsqu'ils sont jeunes, c'est-à-dire qu'ils sont velus, couverts d'un fin duvet. C'est un arbre orné de feuilles molles, alternées. Chaque feuille se situe individuellement, l'une par rapport à l'autre, sur des axes différents autour d'une même branche. Elles sont pétiolées, c'est-à-dire qu'une petite tige verte, une pétiole, rattache les feuilles à leur branche d'accroche. Les fleurs sont assez similaires à celles du poirier et du pommier, mais finement rosées. Un très beau contraste se dessine donc lors de la floraison. Ces feuilles, simples, sont vertes sur leur surface supérieure et pâles sur leur surface inférieure, d'un doux blanc cotonneux. Au mois d'avril et de mai, entre les feuilles d'un vert foncé, intense et les fleurs claires, blanches aux bordures roses qui s'ouvrent sur l'été. Elles sont axillaires, elles naissent à l'aisselle qui se forme à l'embouchure du rameau et de la feuille. Solitaires, elles s'épanouissent indépendamment les unes des autres avec leur calice velu. Cette partie qui vient soutenir le corolle de la fleur, formée des 5 pétales concaves et arrondis. Ce sont les abeilles qui pollinisent le cognacier dont la majorité des arbres sont auto-fertiles, c'est-à-dire que leurs fleurs possèdent à la fois un organe reproducteur femelle et un organe reproducteur mâle. Il a été cependant observé que certains cognaciers ont besoin d'une pollinisation croisée, c'est-à-dire d'avoir auprès d'eux au moins un arbre pour que la reproduction ait lieu. Et cela est massivement le cas pour les variétés locales d'Asie centrale. Les fruits du cognacier sont de belles sphères plus ou moins biscornues, charnues. À maturité, ils prennent une couleur jaune-or qui peut varier en fonction des variétés. Vladimir Evrenov, a publié en 1960 dans le journal d'agriculture traditionnelle et de botanique appliquée une contribution à l'étude du cognassier. Et il écrit:
les coins pour la majeure partie des variétés sont de couleur jaune, jaune doré et parfois allant d'un jaune pâle, même verdâtre, au jaune orangé. Il existe des variétés turkestan qui restent d'un vert herbacé à pleine maturité. Les variétés légèrement lavées de rose ou ayant un reflet rougeâtre sont très rares et sont toutes originaires de l'Afghanistan où du reste elles sont très appréciées.
Les coins sont enveloppés d'une petite toile cotonneuse, blanche, qui leur donne un air de vieux fruits rustiques dans leur manteau de temps. Ils dégagent une odeur très particulière, qui se répand aux choses alentours et dans les espaces où ils sont entreposés. Au XVIIe siècle, on estimait que cette odeur était fort désagréable, et c'est ainsi que le coin, mis au coin, se retrouva dans le fin fond des jardins. Je vois en cette période de l'histoire une étape clé dans la mise en place d'une pensée rationnelle, de la rationalisation nettoyée, érigée en doctrine autoritaire et hégémonique. Et ainsi je me demande si le coin ne fut pas l'un de ces fruits qui représentait un peu trop la nature incontrôlée, la rusticité des formes et des odeurs, un fruit qui n'aurait pu répondre au désir mercantile de produire des peaux lisses et épurées, semblables les unes aux autres. Car oui, le coin a une forme imparfaite. Evreinov ajoute:
selon la forme du fruit, on distingue des variétés à fruits globuleux maliformes, côtelés ou non côtelés, à fruits piriformes, côtelés ou non côtelés, à forme allongée, elliptique, étranglée vers le pédoncule ou vers le calice, fortement côtelés ou réguliers sur leur pourtour. Cependant, ces formes variées ne sont pas stables à l'exception des deux types bien définis, maliformes et piriformes, qui forment deux groupes de coins bien distincts.
Par maliforme, l'on entend les fruits dont la forme se rapproche de la pomme, puis par piriforme, l'on entend les fruits davantage semblables aux poires. Le cognassier aime les terrains riches et souples, très peu calcaires. Il se trouve parfaitement bien dans des sols argilo-siliceux. Cependant, il sait s'adapter à des terrains assez différents. Sa sensibilité porte davantage sur la température. Il supporte des périodes de grand froid, généralement jusqu'à moins 20, et des périodes de grande sécheresse. Le cognassier peut survivre longtemps sans eau, mais non sans lumière. Les pommes d'or que sont les coins gagnent leur couleur d'un jaune intense et leur belle odeur en s'épanouissant au soleil. À l'état spontané, ils se trouvent sur les lisières des bois et dans les clairières pour profiter de la lumière plus amplement. Cultivé pour ses fruits, le cognassier l'est aussi pour devenir porte-greffe. Il est l'un des porte-greffes du poirier. À l'inverse, le poirier sert de porte-greffe au cognassier, tout comme l'aubépine.
Je n'ai pas élevé mon garçon pour qu'il soit un soldat, qui va devenir une chanson très populaire aux États-Unis en 1915 grâce à la musique d'un certain Al Biancatorosi, qui, comme son nom l'indique, est un Italien de New York. Voici une version.
Bah, là tu vois.
Tout ça, c'est.
Eh oui, tout ça, c'est des coins. Là, tout le long, on a embosqué. Bah, en fait, c'était, ils mettaient une allée de coins à côté des poiriers pour faire leur porte d'aide. Tu vois, je sais ce que c'est.
Tout ça, là.
Mais le moyen le plus utilisé pour le multiplier reste le semis ou le marcottage. La récolte des fruits se fait, dans nos régions, en automne, lorsqu'ils dégagent leur odeur de miel et que les premières gelées sont intervenues. Un tout petit rappel d'histoire. Cela fait longtemps que le cognassier est présent de nos vergers. Il était cultivé déjà il y a plus de 4000 ans, en Babylonie. Sa culture s'est étendue dans le monde perse et en Sogdiane, cette région historique qui recouvrait en partie l'Ouzbékistan, le Tadjikistan et l'Afghanistan. Puis, elle s'est étendue en Asie mineure, en Caucasie et jusqu'en Grèce. Ce long cheminement du coin jusqu'à la Drôme a connu d'autres étapes. Le cognassier s'est naturalisé en Europe sud-orientale après avoir conquis la Grèce, puis ce sont les Romains qui l'ont introduit dans la péninsule italique. Et de là, il s'est acheminé en Europe méridionale, dans les pays balkaniques et en Crimée. Maintenant, dans nos contrées, on le trouve le coin, par-ci, par-là, dans des jardins. Il n'est plus si présent comme il le fut dans les années 50, mais il perdure. C'est à nous de réveiller ses saveurs et d'imaginer encore comment on peut donner du goût à la vie en cueillant et en transformant le coin. Une si longue histoire de la culture du cognassier ne peut être qu'accompagnée d'un ensemble de légendes et de symboles. Chez les Grecs anciens, l'on offrait un coin en rituel lors des mariages. Symbole de fécondité et d'amour, il est un attribut d'Aphrodite, déesse guerrière grecque, la Vénus des Romains. Et l'on raconte que les pommes d'or dont est parsemée la littérature mythologique grecque seraient en réalité des coins. Si l'on suit cette rumeur, ce sont des coins du jardin des Hespérides que doit cueillir Héraclès pour remplir sa 11e mission, et qui vont le mener à tuer le Ladon, dragon aux 100 têtes, à qui Héra avait confié le soin de protéger ses arbres des Hespérides, les filles d'Atlas, gourmandes de ses fruits dorés. Carne de membrillo, c'est le nom que l'on donne à la pâte de coin.
Carne de membrillo, c'est mignon comme tout, membrillo. C'est beau comme mot.
Me disait mon père. Il a écorché la peau dure des coins pour les plonger dans une grande casserole. Ça faisait des bulles qui gonflaient et soufflaient comme un geyser. J'ai raconté l'histoire d'Emma quand elle était petite, la nuit où ses parents ont nettoyé la cuisine qui coulait sous le sucre roux des coins qu'on avait oubliés sur le feu. Il y en avait partout, il paraît. Ils y ont passé la nuit à nettoyer les taches au mur. Carne de membrillo. Carne de membrillo. Ça sent bon, les coins. Une odeur qui porte en elle-même les souvenirs de vieilles après-midi, dans la chaleur des poêles à bois, au temps où les habitants faisaient mûrir les plaisirs de leur vie avec des confitures de fruits, des gelées, des gâteaux, des liqueurs au goût rude. Toute la maison s'est emplie de l'odeur des fruits imparfaits, rustiques dans leurs bosses et tout pleins de connaissances. L'odeur de la nature qui dort les feuilles d'arbres. Le repos du froid dans le fruit mûr. Quelques utilisations de la plante. Je préfère vous en énumérer quelques-unes et vous conseiller de vous référer à des ouvrages dédiés aux plantes médicinales. J'ai lu sur le blog Phytovox un article écrit par Alain Tessier, ethnobotaniste. Il explique « De saveur âpre, le coin, riche en tanins et en pectine, est traditionnellement réputé pour ses propriétés antidiarrhéiques. Il possède une action régulatrice et protectrice sur les intestins et favorise le métabolisme des graisses et des sucres. Astringent puissant, le suc du fruit est aussi employé dans le traitement des affections buccales et en cosmétologie. Jusqu'au XVIIe siècle, le coin est considéré comme un antidote des poisons. Les graines, riches en mucilage, ont des propriétés émollientes, très adoucissantes. Elles sont employées en externe contre les irritations, les gerçures, les brûlures, les eczémas et les hémorroïdes. Les coins sont astringents. Ils aident pour toute faiblesse des organes digestifs, des cas de dysenterie, d'hémoptysie, de leucorrhée, etc. Jean-François Cazin, dans son traité pratique et raisonné des plantes médicinales et indigènes, propose la composition d'une décoction faite des fruits et des semences de cognassier à égale quantité. Pour soigner les diarrhées fréquentes, il préconise de mélanger 30 g d'un sirop de coin avec 60 g d'une infusion concentrée de sauge. Il est également possible de faire un vin de coin par la macération dans du vin de coin coupé par tranches. On peut l'utiliser par voie interne, dans des cas de faiblesse, d'asthénie générale, et par voie externe, dans des cas de relâchement du vagin, de descente d'organes. Ces cas-ci, on peut également imaginer les traiter avec des cataplasmes de pulpe de coing. Les semences, ainsi que leur mucilage, peuvent également être utilisées. Les semences émollientes et adoucissantes peuvent aider pour un grand nombre d'affections, ophtalmiques et autres. Ce que l'on peut retenir, c'est que le coing est par son caractère astringent et adoucissant, un allié du ventre et des intestins.
Paisible rumeur-là vient de la ville. Et je m'en vais, au vent m'en vais, qui m'emporte de-ci, de-là, pareil.
Au revoir.
Un coin-coin.
Ah, mais c'est ce que je voulais dire.